2. L'Eriador, l'Arnor et les héritiers d'Isildur. Eriador était le nom donné à l'ensemble des terres entre les montagnes de brume et les montagnes bleues. Au sud, elles étaient bornées par le Griffleur et la Glanduin, qui s'y jettent en amont de Tharbad. À son apogée, l'Arnor comprenait tout l'Eriador, hormis les régions situées au-delà du Lûn, et les terres à l'est du Griffleur et de la Bruyando, où se trouvaient Fandeval et la Houssière. Au-delà du Lûn était un pays d'elfes, verdoyant et calme, où les hommes n'allaient pas. Mais des nains habitaient, et habitent encore, sur le versant est des montagnes bleues, en particulier dans les régions au sud du golfe de Lûn, où ils exploitent encore des mines. C'est pourquoi ils avaient l'habitude de se rendre dans l'est, en passant par la grande route, comme ils l'avaient fait de longues années durant, avant que nous arrivions dans le comté. Au Havre Gris vivait Círdan, le constructeur de navires. Et certains disent qu'il y vit encore, tant que le dernier navire n'aura pas vogué dans l'ouest. À l'époque des rois, la plupart des hauts elfes qui s'attardaient encore en terre du milieu vivaient auprès de Círdan ou dans les terres maritimes du Lindon. S'il en reste aujourd'hui, ils sont peu nombreux. Après Elendil et Isildur, il y eut 8 grands rois de l'Arnor. Après Earendur, en raison des dissensions qui déchiraient ses fils, leur royaume fut divisé en 3. L'Arthedain, le Rudor et le Cardolan. L'Arthedain se trouvait au nord-ouest et englobait les terres entre le Brandivin et le Lûn, de même que celles au nord de la Grande Route jusqu'aux Collines du Vent. Le Rudor, au nord-est, s'étendait entre les landes d'Étain, les Collines du Vent et les Montagnes de Brume, mais comprenait également la Fongrège et la Bruyando. Le Cardolan était situé au sud, borné par le Brandivin, le Griffleur et la Grande Route. La lignée d'Isildur fut maintenue en Arthedain et elle y subsista, tandis qu'elle ne tarda pas à périr au Cardolan et au Rudor. Il y eut de nombreuses querelles entre les royaumes, ce qui eut pour effet d'accélérer le déclin des Dúnedain. Le principal contentieux était la possession des Collines du Vent et du pays situé à l'ouest vers Bri. Le Rudor et le Cardolan convoitaient chacun Amon Sul, Montauvent, lequel se trouvait à la frontière des deux royaumes, car la tour d'Amon Sul renfermait le Palantir le plus puissant du Nord, les deux autres étant en possession de l'Arthedain. C'est au commencement du règne de Malvegil de l'Arthedain que le mal arriva en Arnor. Car à cette époque, le royaume d'Angmar se forma dans le nord au-delà des landes d'Étain. Son territoire s'étendait des deux côtés des montagnes, et des hommes mauvais s'y trouvaient rassemblés en grand nombre, de même que des orques et d'autres terribles créatures. Le seigneur de ce royaume se faisait appeler le roi sorcier, mais c'est seulement plus tard que l'on apprit qu'il s'agissait en vérité du chef des spectres de l'anneau venu dans le nord dans l'intention d'anéantir les Dúnedain en Arnor, espérant profiter de leur désunion, tandis que le Gondor demeurait puissant. Au temps d'Argeleb, fils de Malvegil, alors qu'il ne restait plus aucun descendant d'Isildur dans les autres royaumes, les rois de l'Arthedain voulurent reprendre la suzeraineté de tout l'Arnor. Le Rudor s'opposa à leurs revendications. Les Dúnedain y étaient peu nombreux, et un seigneur des montagnards s'était emparé du pouvoir, un homme mauvais et un allié secret de Langmar. Ainsi, Argeleb fortifia les Collines du Vent, mais il tomba au combat dans la guerre contre le Rudor et Langmar. Arveleg, fils d'Argeleb, avec l'aide du Cardolan et du Lindon, expulsa ses ennemis des collines. Et durant maintes années, l'Arthedain et le Cardolan défendirent une frontière le long des Collines du Vent, de la Grande Route et du cours inférieur de la Fongrège. Il est dit que Fandeval fut assiégé à cette époque. Une grande armée marcha hors de Langmar en 1409. Franchissant la rivière, elle entra au Cardolan et encercla Montauvent. Les Dúnedain furent vaincus et Arveleg tomba. La tour d'Amon Sul fut incendiée et rasée, mais le Palantir survécut, emporté dans la retraite vers Fornost. Le Rudor fut occupé par des hommes mauvais soumis à Langmar, et les Dúnedain qui y demeuraient furent tués ou s'enfuirent vers l'ouest. Le Cardolan fut ravagé. Arafor, fils d'Arveleg, n'était pas encore adulte, mais n'en était pas moins vaillant. Et avec l'aide de Círdan, il bouta l'ennemi hors de Fornost et des coteaux du nord. Un dernier bastion de fidèles, composé de Dunedain du Cardolan, résista également à Tir Ngorthad, les coteaux des Tertres, où se réfugia dans la forêt avoisinante. On dit que Langmar fut un temps contenu par ceux des elfes venus du Lindon, et aussi de Fandeval, car Elrond fit venir des renforts de la Lorienne au-delà des montagnes. À cette époque, les forteaux qui s'étaient établis dans l'angle, entre la Fongrège et la Bruyando, s'enfuirent à l'ouest et au sud, à cause des guerres et de la terreur de Langmar, mais aussi en raison de la détérioration des terres et du climat de l'Eriador, devenu hostile, en particulier dans l'est. Certains regagnèrent la contrée sauvage, s'installant aux abords de la rivière aux flambes, et ils devinrent un peuple de riverains et de pêcheurs. Durant le règne d'Argeleb II, la peste arriva en Eriador par le sud-est et décima la population du Cardolan et celle de Miniriath en particulier. Les Hobbits et tous les autres peuples en pâtirent beaucoup, mais l'épidémie diminua en progressant au nord et les régions septentrionales de l'Arthedain ne furent guère touchées. Cette époque signala la fin des Dunedain du Cardolan et de mauvais esprits venus de Langmar et du Rudor investirent les tertres désertés et y élurent domicile. On dit que les monticules de Tir Ngorthad, comme on appelait jadis les coteaux des tertres, sont très anciens. Bon nombre auraient été élevés à l'époque du monde antique au premier âge par les ancêtres des Edain, avant qu'ils ne franchissent les montagnes bleues jusqu'au Beleriand, dont le Lindon est la seule partie qui subsiste de nos jours. Aussi les Dunedain, à leur retour, regardèrent-ils ces collines avec la plus grande révérence, et ils y enterrèrent bon nombre de leurs seigneurs et de leurs rois. Le tertre où fut emprisonné le porteur de l'anneau aurait été, selon certains, la tombe du dernier prince du Cardolan, tombé durant la guerre de 1409. En 1974, la puissance de Langmar se manifesta de nouveau et le roi sorcier envahit l'Arthedain avant la fin de l'hiver. Il s'empara de Fornost et chassa la plupart des Dunedain restant au-delà du Lûn. Les fils du roi étaient de ce nombre. Mais le roi Arvedui tint les coteaux du nord jusqu'à la toute fin. Puis il s'enfuit vers le nord avec quelques-uns de son escorte, et la rapidité de leurs chevaux les sauva. Arvedui se cacha pour un temps dans les galeries des anciennes mines naines à l'extrémité des montagnes. Mais la faim le poussa à chercher assistance auprès des Lothoth, les hommes des neiges du Forokel. Il en trouva quelques-uns bivouaquant au nord de la mer, mais ils ne l'aidèrent pas volontiers, car le roi n'avait rien à leur offrir, hormis quelques joyaux sans valeur à leurs yeux. Et ils craignaient le roi sorcier qui pouvait, disait-il, commander le gel et le dégel par sa seule volonté. Mais tant par compassion envers le roi Ave et ses hommes que par crainte de leurs armes, ils leur offrirent un peu de nourriture et leur construisirent des huttes de neige. Là, Arvedui fut contraint d'attendre et d'espérer qu'une aide lui parvint du sud, car ses chevaux avaient péri. Sitôt que Círdan apprit par Aranarth, fils d'Arvedui, la fuite de ce dernier dans le nord, il envoya un navire au Forokel afin d'aller à sa recherche. Après bien des jours, en raison de vents contraires, le navire arriva enfin à destination, et les marins virent au loin le petit feu de bois flotté que les hommes égarés s'efforçaient de maintenir. Mais cette année-là, l'hiver mit longtemps à relâcher son étreinte, et bien qu'on fût alors en mars, la débâcle commençait à peine, et la glace s'étendait encore loin des rives. Les hommes des neiges, apercevant le navire, furent en même temps ébahis et effrayés, car jamais de mémoire d'homme, ils n'avaient vu un tel navire sur les flots. Mais ils étaient entre-temps devenus plus amicaux, et ils s'aventurèrent sur la banquise avec le roi et les survivants de son escorte, aussi loin qu'ils l'osèrent dans leur voiture glissante. Ainsi, une barque du navire fut en mesure d'aller les recueillir. Mais les hommes des neiges étaient inquiets, car ils disaient flairer un danger sur le vent. Et le chef des Lothoth dit à Arvedui « Ne montez pas sur ce monstre des mers. Que les marins nous apportent des vivres et d'autres choses qui nous font défaut s'ils les ont, et vous pourrez rester ici jusqu'à ce que le roi sorcier soit rentré chez lui. car en été, son pouvoir diminue. Mais son souffle est mortel à présent, et son bras est long et froid. » Mais Alvedui ne suivit pas son conseil. Il le remercia. Et lorsqu'ils se séparèrent, il lui donna son anneau, disant « Cet objet a plus de valeur que vous ne pouvez le concevoir, par sa seule origine. Il n'a aucun pouvoir, sinon le prix que lui accordent ceux qui tiennent ma maison en honneur. Il ne vous aidera pas, mais si jamais vous êtes dans le besoin, les miens vous le rachèteront avec quantité de choses que vous pourriez désirer. » Ainsi, l'anneau de la maison d'Isildur fut sauvé, car il fut plus tard racheté par les Dunedain. On dit que cet anneau n'était autre que celui offert à Barahir par Felagund de Nargothrond, que Beren recouvra au péril de sa vie. Or, le conseil de Lothoth était bon, par hasard ou par clairvoyance, car le navire n'avait pas encore gagné la haute mer qu'une grande tempête de vent se leva avec un blizzard venu du nord, et elle repoussa le navire sur la banquise et entassa de la glace contre ses flancs. Même les marins de Círdan ne purent rien faire, et à la nuit, la glace défonça la coque et le navire périt. Ainsi finit Arvedui le dernier, et les Palantiri s'abîmèrent avec lui dans la mer. Ce n'est que bien plus tard que l'on apprit des Hommes des Neiges la nouvelle du naufrage de Forokel. Les gens du comté survécurent, mais la guerre balaya leur pays, si bien que la plupart durent fuir pour se cacher. Ils envoyèrent au secours du roi quelques archers qui ne revinrent jamais, et d'autres se rendirent aussi à la bataille qui entraîna la chute de Langmar, bataille relatée dans les annales du Sud. Puis, dans la paix qui s'ensuivit, les gens du comté devinrent maîtres d'eux-mêmes et ils prospérèrent. Ils se choisirent un thegn en lieu et place du roi et s'estimèrent heureux, encore qu'ils aient longtemps été nombreux à attendre le retour du roi. Mais cet espoir finit par disparaître des mémoires et ne subsista plus que dans l'adage « Quand le roi reviendra », qui se disait d'une chose bonne mais irréalisable ou d'un mal qu'on ne pouvait réparer. Le premier thegn du comté fut un certain Bouca de la Marèche, dont les vieilles boucs se réclamaient d'être les descendants. Il devint thegn en 379 de notre compute. 1979. Après Arvedui, le royaume du Nord prit fin, car les Dunedain étaient désormais peu nombreux et tous les peuples de l'Eriador se trouvaient diminués. La lignée des rois se perpétua néanmoins à travers les chefs des Dunedain, dont Aranarth, fils d'Arvedui, fut le premier. Arael, son fils, fut élevé à Fondeval, comme tous les fils de chefs qui vinrent après lui. Et leurs biens de famille, héritage de la maison, furent également conservés là-bas. Les fragments de Narsil, l'étoile d'Elendil et le sceptre d'Anúminas. Le sceptre était l'insigne royal par excellence à Númenor, nous dit le roi. Et c'était aussi le cas en Arnor, dont les rois ne portaient nulle couronne, mais plutôt une unique gemme blanche, l'Elendilmir, l'étoile d'Elendil, sur un bandeau d'argent dont il se saignait le front. En faisant allusion à une couronne, Bilbo entendait sans doute celle du Gondor. Vers la fin de sa vie, il semblait très au fait de tout ce qui concernait la lignée d'Aragorn. Le sceptre de Númenor aurait disparu avec Ar-Pharazôn. Celui d'Anúminas était la verge d'argent ouvrée des seigneurs d'Adunié, et c'est peut-être l'objet le plus ancien façonné de main d'homme qui subsiste encore en terre du milieu. Il avait déjà plus de 5000 ans le jour où Elrond le remit à Aragorn. La couronne du Gondor imitait la forme d'un aume de guerre numénoréen. Au début, il ne s'agissait en vérité que d'un simple aume, et l'on dit que c'était celui qu'avait porté Isildur à la bataille de Dagorlad. Le aume d'Anarion ayant été écrasé par la pierre jetée depuis Barad-dûr qui entraîna sa mort. Mais à l'époque d'Atanatar Al-Karin, celui-ci fut remplacé par le aume incrusté de pierreries qui servit au couronnement d'Aragorn. Quand le royaume fut déchu, les Dunedain passèrent dans l'ombre, vivant dans la clandestinité et le vagabondage. Rien ou presque ne fut jamais chanté ou consigné de leurs exploits et de leurs labeurs, et le souvenir de ces choses ne s'est guère perpétué depuis le départ d'Elrond. Et même si les créatures mauvaises, avant même la fin de la paix vigilante, avaient déjà recommencé à attaquer l'Eriador ou à l'envahir secrètement, les chefs des Dunedain furent pour la plupart à même de jouir de leurs longues existences. Aragorn I, dit-on, fut tué par les loups, qui depuis lors ne cessèrent d'être une menace en Eriador, et ils le sont encore de nos jours. Au temps d'Arad I, les orques, qui jusque-là occupaient, comme on le vit plus tard, des forteresses secrètes dans les montagnes de brume, se manifestèrent soudain. En 2509, Celebrian, épouse d'Elrond, fut prise en embuscade dans le col de Corne Rouge alors qu'elle se rendait en Lorienne. Voyant son escorte dispersée par leur soudain assaut, les orques la saisirent et l'enlevèrent. Eladan et Elrohir allèrent à sa poursuite et la secoururent. Mais seulement après qu'on lui eut infligé des tourments et une blessure empoisonnée. On la ramena à Imladris, et bien qu'Elrond fût à même de guérir son corps, elle perdit toute joie en la terre du milieu et se rendit au Havre dès l'année suivante, traversant la mer. Et plus tard, au temps d'Arasuil, les orques proliférant à nouveau dans les montagnes de brume se mirent à ravager les terres, et les Dunedain et les fils d'Elrond les combattirent. C'est à cette époque qu'une bande nombreuse fit une grande incursion à l'ouest, au point d'entrer dans le comté pour en être chassée par Bandobras Touk. Il n'y eut pas moins de 15 chefs avant la naissance du 16e, Aragorn II, qui assuma de nouveau la royauté, tant du Gondor que de l'Arnor. Nous l'appelons notre roi, et lorsqu'il vient dans le nord et regagne sa demeure d'Anuminas, aujourd'hui refondée pour séjourner un temps au bord du lac du Crépuscule, tous se réjouissent dans le comté. Mais il n'entre pas dans ce pays et s'en tient à la loi qu'il a lui-même prescrite qu'aucun des grands gens n'en passe jamais les frontières. Il n'empêche qu'on le voit souvent mener une belle suite jusqu'au grand pont où il salue ses amis et tous ceux qui désirent le voir. Et d'aucuns prennent la route avec lui et partent vivre sous son toit aussi longtemps qu'ils en ont envie. Pérégrin le Thain y a séjourné à maintes reprises, ainsi que maître Sam Saget le maire. Sa fille, Elanor la Belle, compte parmi les demoiselles d'honneur de la reine Étoile du Soir. La lignée du Nord pouvait s'enorgueillir sinon s'émerveiller du fait que, malgré leur puissance déchue et leur population diminuée, la succession de père en fils se maintint, ininterrompue, tout au long des générations. De même, si la longévité des Dunedain ne cessa de s'amenuiser en terre du milieu, le déclin fut plus rapide au Gondor dès lors que leurs rois firent défaut. Cependant que maint chef du Nord vivait encore deux fois plus vieux que les autres hommes, c'est-à-dire bien au-delà des jours octroyés à nos plus vénérables. Aragorn vécut d'ailleurs 210 ans, plus longtemps qu'aucun autre de sa lignée depuis le roi Arvegil. Mais en Aragorn et les Sars fut renouvelée la dignité des rois d'autrefois.